Et bonjour à tous et bienvenue dans Critique Biaisée, l'apéroco, la petite émission qui en moins de 5-10 minutes va vous donner envie de regarder ou pas des séries, des films, tout un tas de choses que vous pouvez trouver sur les internets. Et aujourd'hui autour de la table, comme à son habitude, il y a ce cher Olivier. Salut Olivier.
Salut à tous.
Et il y a Romain.
Et bonjour.
Et il y a moi-même, Thomas, qui anime parfois cette bande de joyeux lurons. Pour aujourd'hui, au sujet de cet apéroco, nous allons parler pour Romain de Formula One Drive to Survive Season 3, si je ne m'abuse. C'est pas la 4, non, c'est la 3.
Non, c'est pas la 4 du coup.
Très bien, c'est la 3. Olivier qui va nous parler de Homecoming.
C'est la 1.
C'est la 4, c'est cool. Pas la 4.
Saison 1. Non, c'est la 5.
C'est pas la 4.
Et
c'est
moi-même là. Qui vous parlais de The One. Donc, c'est The One, saison 1. Enfin, voilà.
La 4
nous numéro 1. Nous allons commencer par un peu de Formule 1, un peu de V12. Ceux qui nous écoutent connaissent mon amour pour les grosses cylindrées, les voitures qui vont très, très vite. Et Romain, je te cède donc la parole.
Allez. Et donc, semaine après semaine, on change. Je change pas, je reste dans le sport. Ça plaît à Olivier, du coup, il adore. Cette semaine, c'est de Formula One Drive to Survive, du coup, qui est sorti il y a 10 jours sur Netflix, à peu près. Troisième saison. En plus, je suis un peu raccord avec la saison de Formule 1 a commencé dimanche. Donc, nouvelle saison, du coup. Et oui, on est vraiment au top de l'actualité.
Tellement de recos dans ta chronique.
C'est ça, c'est fou. Hein. Du coup, Drive to Survive, pour faire bref, on va suivre ce qui se passe dans une saison de Formule 1. À l'intérieur, en fait. Donc, dans les paddocks, dans les écuries, toute cette petite machine, tout ce petit business qui est assez conséquent et beaucoup d'argent en jeu. On va surtout s'attacher aux émotions des pilotes, voir comment ça se passe dans une saison. En fait, ils ont des postes qui sont pas très stables. Hein. Ils peuvent vraiment disparaître d'une course à l'autre. C'est-à-dire que s'ils sont vraiment à chier, au bout de 3 courses, ça peut dégager. Il n'y a que très peu de pilotes qui sont très stables. Et on peut penser à Lewis Hamilton, par exemple, cette fois champion du monde. Donc, des mecs ils sont sûrs de ne pas bouger. Mais ça peut être assez précaire. Donc, on va vraiment rentrer dans le fond du sujet. Vraiment suivre des pilotes dans leur vie de tous les jours, dans leurs émotions, dans leur façon de gérer. Ils sont deux dans une écurie, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup. Dans chaque écurie, ils sont deux. Donc, ils ont un coéquipier, mais qui est aussi un adversaire, au final. Donc, comment cette rivalité est gérée en interne, sans que ça déborde, pour pas que ça nuise aux performances, au final. Je conseille vraiment aux néophytes, même ceux qui ne connaissent pas la Formule 1, parce qu'au final, les courses, elles ne prennent pas une part importante de la série. Parce que c'est vraiment un monde et un milieu très, très intéressant. Il y a une phrase de Adam Hilton, au premier épisode, qui résume bien le milieu, qui dit « Cash is king ». Et c'est vraiment, l'argent est roi dans la Formule 1. C'est elle qui gère tout. Et je vous le conseille. Vraiment, néophytes comme... je pense que ceux qui regardent de la Formule 1 ont déjà vu cette série et l'adorent. Mais ceux qui n'ont jamais entendu parler, allez jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment, vraiment très intéressant pour le coup.
La saison 1 était excellente. Et c'est vrai que moi qui suis néophyte... Et
la saison 1, il a moins bien.
Ah oui, parfait.
En plus, donc... Oui.
Il me tarde de regarder la 3. Là.
Bien belle valeur, ça me donne vraiment pas du tout. Mais alors, dites-moi envie. J'aime parce que, alors, dans tout ce que tu as dit, je me suis dit, le cash is king, je fais waouh, ok. Ensuite, tu as dit, non, mais ils ont une situation précaire, ils sont juste pilotes de Formule 1. Je me suis dit, c'est vrai, on est vraiment les petites gens, etc. Bref,
ouais, mais ils sont pas là par hasard.
Vachement bien, non, ça a l'air vachement
oui,
bien.
Oui, mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas des mecs qui sont là au hasard. Enfin, je veux dire, cash is king dans la Formule 1, mais les mecs sont quand même les meilleurs pilotes du monde de quasiment tout sport de confondu.
Ils ont des réflexes.
Non, mais en vrai, je pense que moi je suis pas dans la cible parce que. En fait, j'ai jamais compris le délire des gens qui tournent sur un circuit en
se
disant. En plus, je me dis, pour moi, c'est un signe de fin de civilisation. Tu sais, on est dans une époque où on essaie de se dire quand même, la planète va mal, on consomme de l'essence pour des conneries, il faut voyager moins. Il y a des mecs, leur job, c'est de tourner en dépensant une.
Mais pour la sieste, Olivier,
ça, je ne piche
pas. Pour la sieste, c'est super de regarder les mecs tourner comme ça. Dédicace à tous ceux qui aiment les circuits. Coucou Bertrand et Cyril. Olivier, à toi, parle-nous de valeurs. J'espère que dans Homecoming, il y a des valeurs, parce que là, nous t'attendons au tournant. J'espère qu'il n'y a pas d'argent, pas de choses méchantes, pas de l'essence. Voilà.
Oui. C'est parti. Homecoming, qui est diffusé sur Prime Video en France et partout, puisque c'est eux qui produisent. 7,5 sur IMDb, 3,9 sur 5 sur Allociné. Alors, de quoi ça parle? Ben, dans la saison 1, on va rencontrer Julia Roberts, qui campe une thérapeute dans un centre de réhabilitation pour vétérans qui sont revenus du front, la Homecoming Initiative, d'où le nom de la série. Très vite, on se rend compte que quelque chose cloche, hein, globalement, un peu comme dans WandaVision, dont on a parlé récemment, en quelque sorte. Mais ici, l'objet du mystère, c'est une multinationale appelée le groupe Geist. Donc, on va suivre cette thérapeute à travers deux époques, pendant qu'elle exerçait dans ce centre, et 4 ans plus tard, lors d'une enquête du département de la défense américain. Alors, quel est le rôle de Julia Roberts, de l'entreprise? Quelles sont leurs intentions? C'est ce à quoi cette première saison, en fait, de ce qu'on pourrait appeler un thriller psychologique, tente de répondre. Et pourquoi moi j'ai aimé, je vous en parle, c'est parce que on est clairement dans la série à mystère, plutôt bien ficelé. Alors c'est pas un rythme effréné, mais c'est pas lent non plus, je trouve. C'est un peu en forme d'anthologie, donc il y a des morceaux de puzzle qu'on doit essayer de reconstituer. Le format reste super efficace parce que c'est des épisodes de 30 minutes en moyenne, donc ça se regarde vraiment super bien. Il y en a pas non plus des masses, je crois que c'est 10 d'épisodes de la saison 1 et 7 épisodes de la saison 2. La réalisation, elle est ouf. J'adore les musiques, la mise en scène et les scènes un peu post-génériques, si on peut dire. Bref, l'ambiance a vraiment quelque chose d'unique, je trouve, que j'ai rarement vu. Enfin, moi, j'ai tendance à vachement aimer les œuvres d'art qui sont super complètes, super maîtrisées, etc. Et là, on est vraiment dans ce type-là de série. Ça joue super bien, en plus. Bref, moi, j'ai passé un super moment. Et si je ne vous ai pas encore convaincu, quelques petits arguments supplémentaires sur Homecoming. La saison 2 a pour actrice principale Janelle Monáe. La série elle-même a été imaginée par le créateur de Mr. Robot. Et c'est en fait tiré d'un podcast de Gimlet. Vu qu'on est sur un podcast, je trouvais que c'était utile de le dire. C'était un podcast qui était basé, donc d'anthologie, basé sur des morceaux choisis d'enregistrement de sessions de thérapie. Et tu avais à comprendre l'histoire à travers ça. Donc, ils s'en sont assez librement inspirés et ils ont créé cette série que je conseille, donc.
Superbe. Mais j'avais passé un bon moment aussi sur cette série. J'avais trouvé l'ambiance vraiment folle. Ouais, je l'avais regardé. J'avais regardé l'ambiance. J'avais trouvé l'ambiance vraiment très, très folle.
La réelle, pour moi, elle est... Waouh, c'est ouais. Un peu... franchement, c'est vraiment cool.
C'est bien fichu. C'est bien fichu. Regardez-la. Les amis, je vais... attaquer avec une petite chanson.
Et toi, Thomas?
J'attaque avec une chanson. L'amour, l'amour, l'amour.
Désolé.
On parle toujours.
Alors, la chance que vous avez, c'est que c'est pas lundi matin. Lundi matin, démarrer comme ça, attaquer
vous
la semaine comme
ça. Vous n'auriez pas été prêt. Je ne suis pas passé en premier par respect pour nos auditeurs. Mais voilà, l'amour, si c'était génétique. Eh bien, c'est la question qu'on va se poser dans cette série The One. Un duo de chercheurs qui tombe sur une particularité génétique de la fourmi et qui fait qu'on peut tous trouver l'amour de sa vie, dont on sera immédiatement épris juste avec des brins d'ADN, aucun match scientifique, si le Tinder 10.0. La CEO, une sorte d'Elon Musk version Cupidon, est aussi charismatique qu'intrigante. Que cache-t-elle? Et comment serait un monde où le One True Love est possible grâce à la technologie? Et qu'adviendrait-il des couples dits du coup traditionnels? Et c'est là la force de cette série, parce qu'au-delà du thriller, au-delà de juste « il y a un CEO chelou et un peu bizarre, il y a une super technologie et qu'est-ce que ça va en être ?» On dépeint vraiment le monde entier et ses changements autour de ça. Donc c'est vraiment la proposition de valeur de The One, cette sorte de thriller Black Mirror-esque britannique, hein, décidément, ils sont forts, c'est grand breton, et qui nous amène voilà, cette enquête, cette anticipation au travers de personnages assez brillants. C'est des bons acteurs, c'est un sujet qui est creusé. La seule limite que je donnerais, c'est justement le thriller, que je trouve un peu facile par instant. Des fois, ça fait un petit peu décrocher, il y a des facilités. Par contre, le monde des pins est très complet, et ça, c'est super dans une série quand ça va plus loin que la simple histoire. Donc, ça est donc une bonne série pour moi. Ça aurait pu être une mini-série. J'aurais kiffé qu'il le fasse en 6 épisodes et qu'il s'arrête là. Et du coup, il y a une saison 2, en tout cas, il y a une proposition pour aller sur une saison 2 et ça m'a un petit peu déçu. J'aurais bien aimé que ça se termine, que ça clôture les parenthèses de plein de storylines et que ça se termine là. Donc ça vaut quand même le coup, bon moment entre le corporate greed, de la réflexion sur le monde du match, les histoires de personnages. Donc moi je le conseille, allez-y, c'est une bonne série, c'est britannique, c'est chantant à l'anglais et puis c'est l'amour quoi. Voilà.
Moi j'ai kiffé aussi cette série donc ouais. J'ai hésité à en parler à ta place aujourd'hui,
ah bon,
mais il y a eu des tractations parce que Cash is King.
J'ai donné beaucoup d'argent.
Oui, c'est ça. Non, j'ai hésité à en parler aussi. Moi, j'ai vraiment adoré. Bon, j'ai même réserve que toi. Clairement, ça aurait dû être une mini-série. Je sais pas pourquoi ils l'ont développé sur autant d'épisodes. Et le thriller, il est pas super impeccable. Par contre, le monde et les questions existentielles que ça pose sont ouf parce que vraiment, t'as pas forcément dit ça. C'est pas juste que la science t'aide à trouver ton one true love. C'est que apparemment, dans ce monde-là, donc il faut vraiment suspendre sa crédulité, mais dans ce monde-là, vraiment, la science a raison. C'est-à-dire, si elle te trouve un match, même physiquement, c'est super dur de résister. Donc, c'est en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Imagine, t'es marié, t'es avec quelqu'un depuis 20 ans et c'est l'amour fou, toujours, etc. Tu vas être physiquement avec cette nouvelle personne où t'as eu un match, tu vas galérer de ouf si t'arrives, en fait, à résister. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça change dans une société comme ça? Est-ce que t'as des vagues de divorce, de suicide, de machin? En fait, toutes les questions qui sont posées par la série sont vraiment top.
Complètement. Ouais, ça fait vraiment réfléchir, se projeter à tout ça. Et c'est super intéressant, du coup. Ça en fait une série qui sort un peu de l'ordinaire en ce sens-là. Voilà, les amis. That's a wrap pour l'apéroco numéro. Bonne question pour le numéro. Je ne sais pas pourquoi je vis.
5.
Merci, merci. Nous avons des calculateurs mécaniques dans l'équipe. Eh oui. Merci à tous, chers auditeurs, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour faire découvrir des séries, aller dans les détails, laisser des commentaires, poster sur Twitter, poster sur Instagram, aimez-nous et à la semaine prochaine.
Poster dans Apple Podcast avec 5 étoiles, si possible.
Moi, j'avais décidé de plus faire le forceur, mais
je pense qu'il faut forcer parce que on a le regret de dire que la courbe de progression d'écoute n'est pas est bien plus rapide que la courbe d'ajout de review dans Apple Podcast. Donc,
c'est vrai,
continuez,
c'est
s'il vous plaît, à nous soutenir parce que c'est le meilleur moyen pour nous, en fait, de rencontrer des nouvelles audiences et d'avoir des
matchs.
Gens qui nous découvrent, etc. Et on aime les matchs, on aime l'amour. Une petite chanson.
Non, mais avec l'amour,
Ouais, désolé.
Allez, au revoir. À bonne semaine.
Ciao, bonne semaine.
À très bientôt. Bisous tout le monde.
Au revoir.